France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Bonjour, je suis Joseph Van Damme, mieux connu sous le nom de José Van Damme. Je suis né à Bruxelles au mois d'août 1940. Je suis donc chanteur d'opéra.
José Van Damme, vous avez une sacrée galerie de portraits à votre actif. Vous avez des nobles, vous avez des valets, vous avez des cordonniers, vous avez des diables, vous avez des saints. Exactement.
Et des méphistos.
Et des méphistos, vous avez toute une galerie de portraits magnifiques. Peut-être d'en choisir quelques-uns. Je crois que ce n'est pas un secret que dans vos rôles préférés, il y a Golo, Hans Sachs,
oui.
Simon Boccanegra,
oui.
Le Saint-François, naturellement, qu'on va évoquer. Prenons Golo.
Oui.
Golo dans Péléas et Mélisande. Voilà un personnage complexe au fil des années, José Van Damme. Est-ce que vous avez l'impression que vous l'avez lu de mieux en mieux, ou au contraire, à force de se frotter aussi à un personnage, il n'est pas si simple de savoir qui il est, ou il s'annonce toujours aussi mystérieux?
Non, c'est sûr, mais ça dépend aussi de la mise en scène, souvent. Hein, vous avez des mises en scène, des metteurs en scène qui vous demandent certaines choses. Ce qui m'a plu le plus, j'ai fait beaucoup de bonnes mises en scène de Péléas, c'est celle de Wilson à l'opéra, à Garnier, ou par exemple la scène des cheveux, où il traîne Mélisande à travers la scène en la tenant par les cheveux. C'est une scène difficile. Et Wilson m'a dit, écoutez, d'abord, elle avait votre chevelure, c'est-à-dire les cheveux courts. Ça aurait été difficile de l'attraper par les cheveux. Mais il m'a dit, faites cette scène sans la toucher. Et il dit, à droite et puis à gauche. Mais au lieu de la balancer de droite et puis à gauche, de gauche et puis à droite, c'est lui qui tournait autour d'elle. Il était à sa gauche, il était à sa droite, et il la touchait pas. Et ça prenait une force extraordinaire. Cette colère de cet homme contre cette femme, il voulait pas la toucher. Je trouvais ça extraordinaire. Alors, pour en revenir à Golo, au début, quand j'étais jeune, hein, j'avais été vers 14 ans voir Péléas. J'étais pas très convaincu. Mais bon, avec Hertha Klust, un jour, je lui ai dit, je chantais Figaro, Leporello. Je lui ai dit, un jour, je vais quand même chanter Golo. Oh ! Elle m'a dit, Golo ! Oh ! Alors là, elle a pris la partition parce que ça, elle connaissait quand même pas de mémoire. Et on a commencé, c'est avec elle que j'ai travaillé Golo. Et c'est un rôle très humain, Golo. Et cet opéra, c'est à la fois un opéra et pas un opéra parce qu'il n'y a pas de duo. Il n'y a pas de trio. Vous pouvez regarder la partition d'un bout à l'autre. C'est une conversation entre Golo et Mélisande au départ, entre Arkel et Geneviève, entre Péléas et Mélisande. Mais c'est jamais ensemble. Ils ne chantent pas ensemble. Et le seul endroit où, pendant deux mesures, ils chantent en duo, c'est le moment où Golo le tue. Toute, et elle chante en dessous aussi. Il y a ces deux mots, et puis Golo le tue. Donc c'était l'union, si vous voulez, musicale, finale, et puis la mort. Hein, et suivie de la mort de Mélisande, naturellement. Mais c'est extraordinaire. Je ne pourrai plus sortir de cette forêt. C'est vraiment le langage qui a été mis en musique. Et tout cet opéra, c'est un chef-d'œuvre. Et Golo, ben c'est un homme. Je crois que c'est un homme dans sa pauvreté, sa complexité. C'est un rôle extraordinaire, humain.
Depuis le dernier jour. doute tout ce qui est arrivé, tout ce qui va arriver. Si je pouvais le dire, tu verrais comme je vois tout, mais je t'aimais tant, je t'aimais tant, mais maintenant qu'elle va mourir, c'est moi qui vais mourir. Et je voudrais savoir, je pourrais te demander, il faut dire la vérité à quelqu'un qui va mourir. Il faut qu'il sache la vérité, sans cela il ne pourrait pas dormir.
Et Mélisande, elle flotte. On ne sait pas très bien. J'ai eu des Mélisandes extraordinaires. J'ai eu Frédéric Raffelstadt, j'ai eu Teresa Stratas, qui était une Mélisande dangereuse. Mais dangereuse, tout en sachant aussi d'où elle vient, où elle va.
Et vous dites qu'il ne faut pas avoir peur du rubato dans cette musique.
Oui, c'est une musique qui doit être fluctuante. C'est pas... J'ai discuté avec des chefs qui n'étaient pas d'accord avec moi, mais c'est un peu comme dans des mélodies. Les mélodies, il faut suivre musicalement. Les noirs sont des noirs, des croches sont des croches. Mais on peut fluctuer, on peut ralentir un petit peu, comme dans les récitatifs, dans les opéras de Mozart. Vous allez vite, vous allez « Bravo, signor padrone, ho cominciato a capire il mistero e a vedere schietto tutto il vostro progetto. » On ralentit, on accélère. Ça, j'ai appris avec Strehler dans les Noces de Figaro. Il l'écrit souvent dans sa musique, hein, Debussy. Plus lent, plus modéré, etc. En fait, le compositeur a écrit une musique qu'il faut respecter, mais en l'adaptant un petit peu à votre personnalité et à ce qui se passe sur la scène ou à ce qui se passe dans votre tête au moment où vous le chantez.
Un des rôles que vous avez énormément chanté, vous l'évoquiez, c'est Figaro.
Oui.
Ce Figaro dans les noces, ça, 400 fois à peu près.
Oui, à peu près, oui. Oui.
Avec toujours autant
Je
de plaisir.
À le connaître.
Toujours autant de plaisir.
Oui, mais non, c'est fini. Mais c'est le genre de rôle que vous pouvez chanter 1000 fois. Et chaque fois que vous le chantez, vous trouvez d'autres choses, de nouvelles choses. On se dit, mais pourquoi j'ai pas pensé à ça plus tôt? Et le Figaro dépend aussi de la réponse de Suzanne, du comte. C'est vraiment des rôles, les tout Mozart, mais les trois d'Aponte, ce sont des chefs-d'œuvre, hein. C'est pas...
Dans les grands rôles qui sont importants pour vous, il y a également Hans Sachs dans
oui.
Les maîtres chanteurs. Oui. Ça, c'est quoi? C'est parce que justement, il y a dans cette œuvre-là l'amour, l'humour,
oui. La
générosité, ce côté artisan aussi.
Oui, l'artisan, naturellement, le cordonnier, la générosité du personnage qui aime quand même Eva. D'un autre côté, vous avez la méchanceté, l'aigreur de Beckmesser. Vous avez le père, Pogler, qui veut tout le bien de sa fille. Vous avez le ténor, naturellement, qui est amoureux. Il y a tout dans cet opéra. Et Le Hollandais volant, je l'ai chanté beaucoup aussi. C'est un bel opéra, très italien quand même, avec les duos, les trios, etc. Amfortas Parsifal, c'est génial.
C'est un enchantement.
Ça touche au ciel. Hein. Mais Hans Sachs, j'ai bien aimé, parce que de tous les rôles que j'ai chantés, ceux que j'ai voulu chanter, c'est le plus humain. Sachs, c'est vraiment l'homme, avec ses qualités, ses défauts, mais c'est un homme, c'est ça qui me plaît.
Boccanegra, José Boccanegra, Van Damme, c'est un doge, c'est un homme.
Oui, aussi. C'est un homme qui... Il est célibataire au bout de 20-30 ans, qu'il a perdu son amour, qui est morte, et il retrouve sa fille. Et puis, en plus, Verdi, c'est pas n'importe qui non plus. Hein. La musique est magnifique. Les duos entre Amelia et Simon, ou entre Simon et Fiesco à la fin, c'est magnifique. Mais un autre rôle que j'ai adoré, c'est Falstaff. Bon, Falstaff, ça, c'est aussi quelque chose à part, parce que il est resté longtemps sans composer, puis il s'est mis à Falstaff, qui est un peu, je dirais, une autobiographie de... Et c'est génial. C'est le Verdi mozartien, je dis.
Les grands entretiens de José Van Damme, France Musique.
José Van Damme, au début des années 80, 1983, il y a un autre tournant dans votre vie, très important, pas des moindres, c'est le Saint-François d'Assise d'Olivier Messiaen. Mm-hmm. Vous n'étiez pas forcément très proche de la musique contemporaine. Contemporaine, ce n'est pas quelque chose que vous défendiez coûte que coûte. Là, vous vous retrouvez avec cet événement, cet oratorio, opéra, cet ouvrage auquel vous êtes lié dès le départ. Mm-hmm. Est-ce que vous vous souvenez, j'imagine que oui, de votre première rencontre avec le compositeur ?
Oui, je me souviens. En fait, le Saint-François d'Assise, c'était une commande de Liebemann, parce que Messiaen n'avait jamais écrit d'opéra. Il a écrit des mélodies que tout le monde, entre parenthèses, connaît. Mais l'opéra, c'était une... Et d'ailleurs, ce n'est pas un opéra. C'est comme vous dites, je crois, scène...
Sacrée, non ?
Sacrée ou quelque chose dans ce genre-là. Et puis, c'était prévu pour un autre chanteur qui... C'est désisté, qui a du nom un français. Et puis, c'est, je crois, Bernard Lefort qui a parlé à Liebemann, mais il y a José Van Damme, éventuellement. Et puis, ils se sont adressés à moi. Est-ce que vous seriez intéressé ? Je dis, ça dépend, je dois voir la partition, je ne peux pas... Alors, on m'a envoyé chez Olivier Messiaen, qui habitait du côté, je ne sais pas, il habitait très haut, il y avait un lift, heureusement. Et il m'a reçu très gentiment... avec son épouse. Et puis voilà, il m'a expliqué son... Mais il avait encore très peu écrit. Il y avait des petits biscuits et du thé. Très gentil. Et puis, bon, la première rencontre, on n'a pas été au piano ou n'importe quoi. La deuxième rencontre, ça s'est passé... Là, on avait déjà des réminiscences de musique, etc. Mais il m'a dit, écoutez, il y a 8 tableaux, mais on ne les a pas encore. Et j'ai maintenant, j'ai les partitions à la maison, écrites à la main, Je ne sais pas si c'est lui ou si c'est Madame Loriot, mais c'est vraiment écrit à la main. Ce qu'avait Seiji Ozawa avait les partitions d'orchestre quand on a répété à Paris, partitions d'orchestre qui pesaient 21 kilos. Il venait avec un sac de marin, avec des partitions. Et puis, ils nous ont envoyé petit à petit, ils envoyaient les tableaux quand ils étaient finis. J'ai reçu d'abord le troisième tableau, et puis le cinquième, et puis le premier, et puis le. Tout à fait dans le désordre. Et puis j'ai reçu le tout en avril 83. Et la première répétition était le 2 novembre, pour avoir en décembre les premières. Ils ont aussi envoyé une cassette où Yvonne Loriot jouait la musique. Et puis j'ai travaillé ça seul. Et Olivier Messiaen m'avait envoyé quelques messages parce qu'il aurait voulu me voir. Il avait une maison de campagne du côté de Grenoble, je crois, par là. Et il aurait voulu que je passe. Mais c'était pendant mes vacances qui étaient courtes. Et j'ai dit, je n'ai pas le temps. Bon, enfin, toujours est-il que je n'ai pas travaillé. J'ai commencé à travailler ça le 1er septembre pour le 2 novembre. Et je suis arrivé à Paris, je le connaissais. Parce que c'est très complexe pour l'orchestre. Mais ce qui m'a frappé dans la musique de Messiaen, c'est qu'il y a la ligne de chant, la ligne mélodique française. C'est pas du tout. Béni sois-tu, mon Seigneur. C'est une musique à thème, thématique qui revenait comme ça. Et je vous dis, en deux mois, je l'avais appris. Et naturellement, ça change tout quand avec l'orchestre. Mais je pense que c'est une œuvre qui restera. Alors, il y avait la scène des oiseaux qui durait 47 minutes. Rien que la scène des oiseaux, où il parle au rouge-gorge, ou je ne sais plus. Je crois qu'il y avait 24 oiseaux différents. Et alors, il n'y avait pas de souffleur. Et puis, au départ, pour être sûr, comme je faisais des gestes, je parlais aux oiseaux comme ça, avec les bras tendus un peu. J'avais sur chaque doigt un nom d'oiseau que j'avais écrit. Le rouge-gorge, le pinson, et puis d'une fois je regardais par là, puis là. Enfin, on triche comme on peut. Mais j'ai fait cinq productions de Saint-François.
Quelqu'un qui n'a pas de spiritualité peut l'endosser ou pas?
Oui, certainement. Moi, je suis croyant, donc ça m'a peut-être ouvert des fenêtres que celui qui n'est pas croyant ne pourra pas ouvrir. Mais naturellement, j'ai chanté Mephisto, c'est pas pour ça que je suis un diable. Seulement, il faut la force de... Ça dure 6 heures, hein, avec la pause. On commençait à l'opéra à 6 heures, et sur 8 tableaux, il est là, 4 heures en scène. Au début, c'était sur les genoux ou debout. Mais j'ai des bons genoux, ça va, ça a tenu.
Vous évoquez Mephisto, les diables, il y a les rôles dans les contes d'Hoffmann, et puis, comment on peut pas tous les évoquer, dans le genre de rôle qui n'est pas le diable, qui n'est pas, voilà, mais qui est un vrai salaud, pour le coup, Scarpia. Vous avez mis du temps avant de le chanter, Scarpia. C'est un rôle de maturité, davantage. Quel plaisir, quel plaisir on a à jouer Scarpia.
Je trouve que cet opéra devrait s'appeler le Scarpia que plutôt la Tosca. C'est pour moi un des meilleurs opéras de Puccini. Et le rôle est magnifique. Hein. J'avais vu des gens comme Gabriel Baquier dans ce rôle qui était extraordinaire. Et c'est un rôle que j'avais envie de faire. Il y a ce côté, ce double côté très gentleman, je dirais. Et alors à la fois salopard avec Tosca et avec le ténor. C'est un bon rôle.
On en sent sa puissance d'un bout du monde à l'autre bout. Pour fêter l'infamie dans le roi, ses peuples confondus, au bruit sombre des écus, dansent une ronde folle autour de son piédestal.
Je me demandais, José Van Damme, si jamais il y avait des rôles qui vous avaient poursuivi plus que d'autres, parce que j'ai lu que vous disiez qu'un rôle après la porte d'un théâtre, restait de son côté de la bonne porte et vous de l'autre côté, vous rentriez chez vous.
Sauf Wozzeck. Et j'ai fait très peu, hein. J'ai fait Wozzeck au Métropole, à New York, Métropolitaine, au Covent Garden, à Londres et à Bruxelles. Je l'ai fait 3 fois. Pas plus, parce que Wozzeck, il est névrosé et cette musique qui est belle, je trouve que c'est un chef-d'œuvre, Wozzeck. Hein. Mais il y a ce côté névrosé qui... Alors j'ai pas voulu, je prends le problème à l'envers, je n'ai pas voulu que cette névrose devienne une habitude et que, comme 400 fois Figaro, que je trouvais chaque fois extraordinaire, mais c'est pas possible pour Wozzeck. Donc j'ai pas voulu ça avec Wozzeck, et je crois que j'ai bien fait de pas vouloir le faire plus. C'est un rôle quand même très très profond et très très dur. Je fais toujours un rapprochement entre Péléas et Wozzeck. Je sais pas si vous connaissez bien les deux œuvres, mais entre le moment où Wozzeck tue Marie, il y a la scène avec les enfants après, et il y a un interlude d'orchestre de 2-3 minutes qui est à tomber par terre, et qu'on retrouve dans Péléas, à la mort de Péléas, avant la mort de Mélisande. Il y a aussi un interlude, mais qui est magnifique. Et ça me fait chaque fois penser à l'autre opéra, quand j'entends ça. Ils sont presque contemporains, hein, Debussy et Alban Berg. Même Puccini. Puccini, Debussy, c'était... Quand on entend la musique, c'est très étrange.
L'interlude poignant de Wojciech de Berg, évoqué par José Van Damme, ici par Daniel Barenboim et l'orchestre de l'Opéra d'État de Berlin. Ainsi se referme le quatrième épisode des grands entretiens avec le grand baryton belge, réalisation Marie Groux et Perrine Mingui, prise de son Marcos Darras, mixage Olivier Dupré, attaché de production Flora Sternadel. Suite et fin de ce portrait, demain à la même heure. Les grands entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.